SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tunganamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pour une heure de français sur la radio SBS. Au sommaire de cette édition, l'actualité, les sports et la semaine politique en Australie, où on parlera notamment des changements majeurs dans le recrutement au sein des forces armées australiennes. On parlera également de théâtre et des cultures aborigènes. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi 11 juin. En France, réaction mitigée chez les militants des tous bords après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par le président de la République. Anthony Albanese rejette la controverse concernant des titres honorifiques récompensant des dirigeants du temps de la pandémie. Et le Conseil de sécurité de l'ONU soutient une proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par le président américain Joe Biden. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale ce dimanche à l'issue des élections européennes dont le Rassemblement national est sorti grand vainqueur avec 31,5% des voix. Les élections législatives auront donc lieu le 30 juin et 7 juillet prochain, a précisé le chef de l'État. Les réactions des militants dans les différents QG et dans la rue ont varié entre joie, stupéfaction et colère. Comme le décrit Valérie Gas pour RFI, même dans le camp présidentiel, les réactions sont mitigées.
Il y avait d'autres solutions. Ces mots sont ceux de Yaël Braun-Pivet ce matin pour commenter la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron. Une prise de distance quasi immédiate avec le chef de l'État de la part de la présidente de l'Assemblée qui préconisait plutôt une coalition, ce qui aurait évité de convoquer de nouvelles élections législatives et de remettre les mandats des députés en jeu. Une annonce qui a provoqué un choc, comme le concède un député de la majorité qui respecte néanmoins la décision d'Emmanuel Macron, même s'il le concède, ça va être dur. 3 semaines de campagne pour tenter d'éviter que le RN soit majoritaire dans le nouvel hémicycle. Une hypothèse de moins en moins invraisemblable. De quoi faire réfléchir dans la majorité où depuis hier soir, tous les états-majors sont sur le pied de guerre. Si François Bayrou, le principal allié d'Emmanuel Macron, a approuvé le fait que le président prenne ses responsabilités, pour le moment, c'est silence radio du côté d'Édouard Philippe. Son parti Horizon se réunit ce soir. Édouard Philippe doit s'exprimer d'ici demain, une attente qui ne laisse pas présager un soutien inconditionnel.
Et à gauche, les réactions n'ont pas tardé. Les écologistes, le Parti socialiste, les communistes et Place publique ont appelé dès hier à la création d'un nouveau front populaire qui se traduirait par des candidatures communes dès le premier tour. 5 syndicats ont déjà appelé à la manifestation le week-end prochain. D'autres mobilisations ont déjà eu lieu, comme au lycée Henri IV à Paris, où plus de 200 étudiants, dont certains ne sont même pas en âge de voter, ont appelé à faire barrage à l'extrême droite. Flora Granchette pour RFI.
Devant les portes du lycée Henri IV, les jeunes brandissent leurs pancartes, déterminés. Certains se perchent sur les rebords des fenêtres. Jean, 17 ans, en fait partie. Comme beaucoup de manifestants, il ne peut pas encore voter.
Avec l'annonce de la dissolution, j'ai l'impression d'être un peu impuissant face à ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mobilise. C'est pour justement faire entendre notre voix et faire tout ce qu'on peut pour défendre nos idéaux et faire en sorte de justement parler, même si je ne pourrais pas aller voter aux élections législatives, faire de notre mieux.
Sur le trottoir d'en face, Sophie observe la scène avec ses amis. Elle se désole, les 18-30 ans ont majoritairement voté pour Jordan Bardella aux élections européennes.
Le Rassemblement National s'est comme calmé, comme s'ils essayaient de se lisser une image pour que les jeunes votent pour eux. C'est pas nous qui votons, mais c'est nous qui sommes engagés. Je trouve que c'est vraiment un décalage entre ceux qui agissent et ceux qui votent.
Avec leur mobilisation, les lycéens souhaitent marquer les esprits. Pour Raphaël, élève en première, l'objectif est de pousser les jeunes à aller voter, mais pas seulement.
Ça donne de l'espoir aussi aux personnes qui sont majeures et qui ont vécu des choses aussi, des combats à travers leur vie. La jeunesse est mobilisée et on laissera pas notre pays, la démocratie, glisser entre nos doigts comme ça, si facilement.
Raphaël espère que ses aînés voteront en masse à la fin du mois. En 2022, seulement 3 jeunes sur 10 s'étaient déplacés pour les élections législatives.
Et en Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a écarté des suggestions de controverse concernant une distinction pour un ancien premier travailliste connu pour ses pratiques politiques strictes en matière de COVID-19. La liste des honneurs pour l'anniversaire du roi cette année comprend des noms bien connus de l'ère de la pandémie, des artistes, des athlètes et des chercheurs. Parmi eux figurent les anciens premiers du Victoria, Daniel Andrews, et de l'Australie-Occidentale, Mark McGowan, qui ont été nommés compagnons de l'Ordre d'Australie pour leur service au Parlement et à la santé publique. Tous deux se sont distingués par leur politique stricte pendant la pandémie. Monsieur Andrews a supervisé l'un des confinements les plus longs au monde dans le Victoria, tandis que Mark McGowan a maintenu la frontière de l'Australie-Occidentale fermée pendant près de 700 jours. Lorsqu'on lui a demandé s'il comprenait pourquoi certaines personnes se sont élevées contre la distinction de M. Andrews, le Premier ministre albanais a répondu qu'il les comprenait, mais a affirmé l'indépendance du processus de nomination.
My view is that these things are done independently of government. That's as it should be, and I congratulate every single person who has been honoured in the King's Birthday honours this weekend.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud prévoit un budget retour aux fondamentaux axé sur les améliorations des infrastructures pour les hôpitaux et les écoles afin de remédier, selon lui, à la négligence du précédent gouvernement de coalition. Plus d'un milliard de dollars sera alloué à l'accessibilité et à l'entretien des écoles, avec un montant similaire pour les projets de santé rurale et régionale. La ministre de l'Éducation, Pruka, a annoncé 200 millions de dollars pour les rénovations et modernisations scolaires en retard, déclarant « Nos écoles publiques sont le cœur de nos communautés et nous voulons que les enseignants et les élèves en soient fiers en veillant à ce qu'elles soient bien entretenues et à jour. » Le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu une proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par le président américain Joe Biden. Le Hamas a accueilli favorablement l'adoption de la résolution rédigée par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis 8 mois. Le mouvement palestinien s'est dit prêt à coopérer avec les médiateurs internationaux pour mettre en œuvre les principes du plan. La Russie, de son côté, s'est abstenue lors du vote des Nations Unies, tandis que les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution soutenant un plan de cessez-le-feu en 3 phases. Ce plan de résolution a été présenté par le président Joe Biden le 31 mai et qui l'avait décrit à cette date donc comme une initiative israélienne. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré de son côté que la guerre pourrait se terminer immédiatement.
Today, this council sent a clear message to Hamas. Accept the ceasefire deal on the table. Israel has already agreed to this deal, and the fighting could stop today if Hamas would do the same. I repeat, the fighting could stop today.
Et selon la présidence suisse, près de 90 pays et organisations, dont la moitié en provenance de l'Europe, ont confirmé leur participation au sommet pour la paix en Ukraine organisé par la Suisse ce week-end. La Russie n'a pas été invitée, mais a déclaré qu'elle n'aurait de toute façon pas assisté à la conférence, car elle est basée sur des propositions de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky, que le Kremlin rejette. La présidente Viola Amert a déclaré que le sommet, qui se tiendra samedi et dimanche prochain, visera à tracer une voie vers une paix possible près de 28 mois après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.
The expectations for the conference are clear. We want to start a broad-based process with regard to a lasting and sustainable peace in Ukraine, to create the conditions for a future peace summit with the participation of Russia. That will only succeed with the interaction of nations. This coming weekend, it will be about finding a common denominator for this endeavor and making concrete progress on individual issues.
Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a promis de poursuivre des opérations de recherche pour un avion militaire disparu transportant le vice-président Saulos Chilima jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. L'avion transportant M. Chilima et 9 autres personnes a disparu lors d'un court voyage de la capitale Lilongwe à Mzuzu dans le nord du pays. Écoutons le président Chakwera.
I know that some media outlets have reported that the search and rescue operations has been suspended, but this is false. MDF soldiers are still on the ground carrying out the search, and I have given strict orders that the operation should continue until the plane is found.
L'avion a décollé de Lilongwe à 9h17 heure locale lundi, mais a disparu des radars et n'a pas atterri à l'aéroport international de Mzuzu 45 minutes plus tard. Le journal The Times avait indiqué que des équipes de recherche comprenant des soldats et des policiers fouillent les zones boisées près de Mzuzu à la recherche des signes de l'avion. Et retour en Australie où, selon le ministre de l'Agriculture Murray Watt, les Australiens ne devraient pas s'inquiéter d'une pénurie nationale d'œufs malgré la détection de la grippe aviaire dans 5 fermes du Victoria. Alors que plus d'un demi-million de poulets ont été euthanasiés dans le Victoria, le géant de la distribution Coles a imposé une limite de 2 cartons par achat d'œufs dans ses magasins partout dans le pays, sauf en Australie occidentale. Les consommateurs sont exhortés à ne pas se précipiter pour acheter des œufs en réponse à cette épidémie. Le sénateur Watt déclare que l'Australie ne connaîtra pas de pénurie d'œufs.
The advice to me is that there's no reason to be worried about a national shortage of eggs. Every day, Australia produces 18 million eggs, and even with a handful of poultry farms now out of action, there's no risk to that supply in the near future or at all.
À présent, un coup d'œil météo. Perth, 21 degrés. Adélaïde, 19. Melbourne, 16. Hobart, 15. Canberra, 12. Wollongong, 17. Sydney, 18. Newcastle, 19. Brisbane, 23. Cairns, 27. Darwin, 31 degrés. Fin de l'actualité. Après une courte pause, nous passerons au magazine des sports de Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce mardi 11 juin. L'Espagnol Alcaraz est le roi de Roland-Garros après une finale très disputée contre l'Allemand Alexandre Zverev. Eric Mamrut, Radio France Internationale.
Vainqueur du simple messieurs Roland-Garros 2024, l'Espagnol Carlos Alcaraz.
Après l'US Open et Wimbledon, c'est Roland-Garros qui tombe dans la besace du prodige espagnol. Un Carlos Alcaraz pourtant mené 2-1 en finale par Sacha Zverev, mais son exceptionnelle force mentale a une nouvelle fois tout renversé, l'ancien joueur français Miguel Yodra.
Waouh, il arrive tout le temps à revenir de situations incroyables. D'ailleurs, c'est la force des grands champions, arriver à sortir vraiment des situations périlleuses, et il a produit son meilleur tennis à la fin, donc... Quelle force mentale, moi je suis impressionné. Il a le sourire, il arrive à pas s'éparpiller, à pas péter les plombs, il reste toujours lucide, c'est Non, un immense champion, encore plus à son âge, c'est bluffant.
Un mental de fer allié à une panoplie tennistique impressionnante, selon l'ex-entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.
Un joueur qui joue au tennis comme ça à 21 ans, je pense pas qu'on ait déjà vu. Il sait tout faire extrêmement bien, mais vraiment. Pour sa taille, il sert incroyablement bien. Il a un coup droit exceptionnel. En revers, il est très fort. Il sait faire des amortis incroyablement bien. Il sait lober incroyablement bien. Il sait volleyer incroyablement bien. Il sait faire service volé. Au même âge, Rafa, il avait 3 grands chelems. C'est le seul de l'histoire qui en avait 3. Mais il avait un jeu super stéréotypé de terre battue.
Carlos Alcaraz, qui a 21 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir gagné 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes.
On écoute maintenant la réaction de Justine Hénin, l'ancienne joueuse belge, 4 fois vainqueur de Roland-Garros.
Il est tellement complet, tellement créatif, tellement instinctif. C'est ce qui a été parfois sa difficulté, hein, au départ, construire son jeu, le structurer, en même temps garder. Il y a cette flamme, hein, ce feu, cet amour du jeu. Il joue au tennis et c'est ce qui fait qu'il va rentrer aussi de plus en plus dans le cœur des gens parce que son jeu nous emporte. Alors bien sûr qu'il a des failles. Heureusement, il a 21 ans. Mais imaginez, gagner 3 grands chelems, 3 surfaces différentes à 21 ans, c'est quand même exceptionnel. Ça en dit long sur sa capacité à gérer les moments importants, les grands moments, les rendez-vous avec l'histoire. Et lui, il a ça en lui. Ça ne se fabrique pas. Il avance vite, il gagne beaucoup et ça va probablement continuer jusqu'où on en reparlera dans quelques années.
Iga Świątek, la Polonaise, est elle la reine de Roland-Garros depuis samedi pour la 4e fois depuis 2020. Elle a battu l'Italienne Jasmine Paolini en 2 manches. Olivier Pron, Julien Varlet et Hugo Moissonnier pour Radio France Internationale.
La finale dame, Pierre, vous savez, on a beaucoup parlé dans ce tournoi du fait qu'il y a eu 11 sessions de nuit, pas une réservée aux femmes, et on se dit que finalement le seul match intéressant vraiment de la quinzaine, c'était son 2e tour, et Iga Świątek, hein, c'était face à Naomi Osaka, c'est pas n'importe qui non plus, en termes de tournoi du Grand Chelem remporté, 3, et elle avait dû effacer une balle de match, hein, dans mes souvenirs, Julien.
Entièrement raison, Olivier, je pense que le tournoi féminin était quasiment tué 2 jours après le début, parce qu'effectivement ce match de 3h11 de Iga Świątek contre Osaka avec cette fameuse balle de match, elle s'en sort et je pense que pour elle ça a été un peu un soulagement pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle s'attendait pas du tout à ce que Osaka joue aussi bien sur terre battue, parce qu'on connaît quand même plutôt Osaka sur surface en dur. Osaka qui revient à la compétition après sa grossesse étant maman. Elle avait remis les choses en place à partir de janvier, donc on s'attendait pas à ce que Osaka joue à ce niveau-là. Elle aussi, elle s'en sort, elle sauve une balle de match, match très long, très difficile, avec une interview un petit peu compliquée après le match, et je pense que ça, elle a un peu...
Public, elle avait donné un peu de petites leçons au public français qui, à ce moment-là, était un peu décrié, il s'est rattrapé depuis.
Et ensuite, je pense que ça l'a remis encore un peu plus dans son tournoi pour ensuite, elle a perdu quoi les 2-3 jeux par set grand maximum jusqu'à cette finale aujourd'hui où en fait c'est hyper intéressant. Je la sens un peu tendue en début de match avec une Paolini qui joue très très bien là pour le coup,
qui donne tout.
Ah oui, et puis elle l'a contré, mais bon, le problème c'est que ça fait 2-1 break Paolini et ensuite 2 jeux blancs. Sur les 20 points ensuite, alors qu'elle mène 2-1, Paolini perd 16 points à 4 et là le match est fini parce que l'intensité, la rigueur, la lourdeur de balle que promet une Świątek fait tout simplement exploser physiquement et tennistiquement une Paolini pour l'emporter en 1h10 de jeu.
6-2, 6-1, Hugo, 1h10, c'est presque un peu plus long que ce qu'on avait prévu parce qu'on était quand même un peu méchant.
C'est à peine plus long que Mondial Sport, vous rendez compte.
C'est ça, mais on n'a pas battu le record de Graf Zvereva, 6-0, 6-1, 33 minutes.
C'était... Non, 6-0, 6-0. Alors, il y avait une coupure de pluie. Il y en a qui disent que ça a duré 37, d'autres 39 minutes. Mais en tout cas, ça a duré moins de 40 minutes.
Ouais, tout ça pour dire qu'avec ce 4e Roland-Garros, elle rejoint Justine Hénin au plus grand nombre de victoires dans le tournoi parisien.
Et justement.
Elle a encore Steffi Graf, 6, et Chris Evert, qui a remis d'ailleurs le trophée, Chris Evert tout à l'heure, qu'il avait emporté cette fois. Donc 4, c'est déjà pas mal. Plus un US Open, ça fait 5 grands chelems à 23 ans. On va dire que la carrière est bien lancée.
Alors, elle est devant. Elle a gagné beaucoup plus tôt que Steffi Graf, que les dames, que tu as annoncé, Olivier. Et il y a aussi une stat par rapport à ce que disait Hugo en lancement, nadalien, c'est qu'elle est quand même à 36 matchs ici à Roland-Garros, 34 victoires.
Ah
donc
oui.
Elle est sur une série tout simplement monumentale.
21 victoires de rang, là. Aujourd'hui, c'était la 21e victoire d'affilée.
Et on écoute la réaction à nouveau de Justine Hénin sur cet exploit de Iga Świątek.
Année après année, on arrive, il y a toujours une forme de pression, mais en même temps, quand on sent qu'on a un peu les clés, bah, c'est à la fois plus facile et en même temps, il faut tenir son rang. Mais je suis impressionnée et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, surtout. Je crois que Gaziantep, elle est en train de dominer le tennis féminin sur terre battue de manière magistrale. Les titres le prouvent. Sur les autres surfaces, c'est une autre histoire. Mais ici, à Roland-Garros, moi, elle m'a à la fois sur le plan mental, mais sur le plan physique, sur sa capacité de concentration, sur sa capacité à justement assumer aussi son statut et les attentes qu'il y avait autour d'elle. Bah, elle m'a vraiment impressionnée une fois de plus cette année. Elle est revenue de loin et au deuxième tour, c'est pas comme en huitième ou en quart de finale. Hein, c'est vraiment une situation encore tout autre. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, elle était lancée, qu'il était écrit qu'elle allait aller chercher son quatrième.
On passe au foot avec un match décevant pour les Bleus avant l'Euro de 2024 avec un match nul 0-0 contre le Canada en amical. Antoine Grenier, RFI.
0-0 dans cette rencontre amicale entre la France et le Canada. On joue les derniers instants. On est dans le temps additionnel entre les deux nations et comme un symbole de l'impuissance offensive française dans cette rencontre, Randal Kolo Muani, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, vient de rater une occasion qui lui était offerte. Un centre venu de la droite signé Kingsley Coman, absolument parfait. Et Randal Kolo Muani qui ne cadre pas sa tête. Voilà des Bleus maladroits à l'image de leur numéro 12 pour ce dernier match avant l'Euro. Il faudra faire bien mieux offensivement le 17 juin face à l'Autriche pour leur entrée en lice dans le championnat d'Europe.
On écoute la réaction de Didier Deschamps qui n'a pas l'air de s'inquiéter.
On a une bonne adversité avec de l'intensité. Voilà, on a eu quelques belles occasions en première mi-temps, surtout la première demi-heure. Après, ça a été un peu plus difficile dans la dernière partie de la première mi-temps. En deuxième, à la fin, on a poussé. Mais bon, avec les changements de joueurs aussi, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est important aussi de répartir et de concerner un peu tout le monde sur ces deux matchs. Il n'a pas été simple aujourd'hui, donc on va s'en servir par rapport à ce qui va nous attendre le 17 juin.
Et puis dans les autres matchs amicaux, dimanche, l'Italie a battu la Bosnie 1-0. Victoire de la Géorgie 3-1 contre le Monténégro. Et la Slovaquie a battu le Pays de Galles 4-0. Et maintenant, on passe en Afrique avec le bilan des qualifs dimanche de la Coupe du Monde. Avec la quatrième journée, le week-end dernier, Cédric De Oliveira. RFI.
Oui, la quatrième journée en Afrique, notamment un succès de la RDC face au Togo 1-0 grâce à Meshack Elia, un but très précoce dès la sixième minute qui a permis aux Léopards de s'imposer à Kinshasa. Alors, tout n'a pas été parfait. Sébastien De Sabre et ses joueurs sortent tout de même de cette séquence avec 4 points en 2 matchs. Classement, la RDC est donc 3e de son groupe. Derrière le Soudan et le Sénégal, leader avec 8 points. Les Lions ont battu la Mauritanie 1-0 grâce à Habib Diallo. Et puis de son côté, la Tunisie est leader du groupe H, même si elle a concédé le nul contre la Namibie 0-0. Victoire du Liberia à Sao Tome et Principe 1-0. Et puis un partout entre Djibouti et l'Éthiopie.
Et hier, il y avait 8 matchs qui ont été disputés. Les précisions de Sofiane Amazian pour RFI.
Les Guépards bondissent en tête du groupe C. L'équipe nationale béninoise s'est offert une très jolie victoire face au Nigeria, finaliste malheureux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Score final 2-1, mené par les Super Eagles, le Bénin a su renverser la vapeur grâce au but de Jodel Dossou et Steve Mounier. Même score et même scénario pour l'Algérie, tombeuse de l'Ouganda 2-1. Oussem Aouar et Saïd Benrahma ont permis au Fennec de s'emparer de la première place du groupe G avec 9 points à égalité avec le Mozambique qui a réalisé la bonne opération en s'imposant dans les toutes dernières secondes face à la Guinée 1-0. Dans le groupe A, l'Égypte a connu un premier accroc en concédant le nul 1 but partout face à la Guinée-Bissau. Les Pharaons restent premiers, 4 longueurs devant leur adversaire du soir et 5 devant le Burkina Faso, tenu en échec 2 buts partout par la Sierra Leone. Enfin, le match fou de la soirée s'est déroulé à Kumasi. Le Ghana a battu la Centrafrique 4-3 avec notamment un triplé de l'attaquant Jordan Ayew. Les Black Stars enchaînent un deuxième succès de suite après leur victoire lors de la troisième journée face au Mali.
Et parmi les autres résultats du jour, la Guinée équatoriale a battu le Malawi 1-0 et puis la victoire du Botswana face à la Somalie 3-1.
Cyclisme et le critérium du Dauphiné qui a été remporté par Primož Roglič, le Slovène. Roglič a montré qu'il sera compétitif le 29 juin pour le départ du Tour de France. Ce sera à Florence. Et puis Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada, sa 6e victoire cette saison. Et à l'arrivée, il a devancé Lando Norris et George Russell. Enfin, un mot de natation. Lors des sélections australiennes, hier à Brisbane, la nageuse Kayleigh McEwen a établi un record du Commonwealth dans le 4 nages en 2 minutes et 6 secondes. McEwen est déjà double médaillée d'or olympique, ayant remporté le 100 mètres et le 200 mètres d'eau au JO de Tokyo en 2021. Depuis, elle domine la discipline en ajoutant le 200 mètres 4 nages individuel à son programme aux Jeux de Paris qui débuteront à la fin du mois prochain. Voilà pour le journal des sports de ce 11 juin.
C'était Love Me, Please, Love Me by, par Catherine Ringer. J'allais continuer en anglais. By Catherine Ringer. Non, c'est une chanson de Catherine Ringer. Vous écoutez toujours le français sur SBS French. Après une courte pause, nous allons passer à l'actualité politique, la semaine politique en Australie, présentée par Patricia Meunier.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous sommes mardi et on passe à la semaine politique en Australie. L'armée australienne va engager des recrues de Nouvelle-Zélande qui sont déjà des résidents permanents sur l'île continent. Dès 2025, cela s'étendra à des citoyens du Royaume-Uni et d'autres pays, notamment les États-Unis et le Canada. Les explications de Patricia Meunier.
L'Australian Defence Force, l'ADF, va recruter à l'étranger. L'annonce a surpris la semaine dernière. Ainsi, à partir de juillet, les ressortissants néo-zélandais pourront postuler. Les candidats doivent être des résidents permanents de l'Australie depuis plus d'un an et ne doivent pas avoir servi dans une armée étrangère au cours des 2 années précédentes. En effet, l'Australie est aux prises avec un déficit d'enrôlement. Elle a donc dû trouver une solution pour renforcer ses forces armées. On écoute le ministre du personnel de la Défense, Matt Keogh.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least 1 year as a permanent resident has not been in a foreign defence force of any type in the preceding 2 years and meets all of the usual security and vetting and character requirements of joining the defence force would be able to apply.
Dès 2025, cela s'étendra aux recrues du Royaume-Uni et d'autres pays, notamment les États-Unis et le Canada. Richard Marx, le ministre de la Défense.
Then from the 1st of January, that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision that we've taken. But we do have an eye beyond that to the Pacific, really.
Cette importante décision résulte de la situation géopolitique actuelle. Richard Marx a également déclaré que les changements apportés aux conditions d'éligibilité étaient essentiels pour relever les défis de sécurité du pays au cours de la prochaine décennie. Dans le passé, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà combattu côte à côte, comme à Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale. Et l'Australie a récemment développé des alliances avec d'autres pays. Ainsi, elle a renforcé ses liens avec le Royaume-Uni et les États-Unis en signant en 2021 le pacte de sécurité AUKUS. Cette alliance a pour but de faire face à l'expansion militaire chinoise dans la région Indo-Pacifique. Enfin, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande travaillent également en étroite collaboration dans le partage de renseignements au sein d'une alliance appelée Five Eyes. Le nouveau recrutement de soldats propose un bonus. Après 90 jours de service, les recrues étrangères pourront accéder à la citoyenneté australienne. On écoute les explications de Fiona McSpirin du département de la Défense.
It's a faster way to become eligible to be to apply for Australian citizenship. It's the 90-day defence service that exists under the Australian Citizenship Act of 2007.
Certains s'inquiètent que cela n'attire des gens vers l'armée que pour obtenir un passeport australien. La responsable du personnel à l'ADF, le lieutenant-général Natasha Fox, pense plutôt que les obligations militaires à l'armée vont limiter ce risque.
People are enlisted under conditions of employment or enlistment that determine the conditions they are required to meet, their length of service period, what trades that they may go to, and therefore the likely training that will be undertaken under time. All of that work and that knowledge and understanding takes place in the recruitment process before they're actually enlisted. So candidates are all aware of their obligations on enlistment.
Le faible niveau de chômage en Australie explique la difficulté de recruter de l'armée. Selon des chiffres récents, le gouvernement estime que les Australian Defence Force manquent déjà d'environ 4400 personnes.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Et c'était Ti Paradis qui nous est interprété par les frères Timal. On va à présent passer à la culture aborigène. Eh bien, savez-vous quels sont les concepts de connexion entre la terre, la spiritualité et la mythologie aborigène? Eh bien, nous allons savoir plus dans une rubrique présentée par Audrey Bourget.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Les aborigènes d'Australie et les habitants du détroit du Torres ont une connexion spirituelle avec la Terre qui s'entremêle avec leur identité, leur sens d'appartenance et leur façon de vivre. Elles représentent leur maison ancestrale, la fondation de leur existence et la gardienne de leurs histoires. Auntie Deirdre Martin, une femme Wabanja de la nation Yuin, incarne cette profonde connexion en tant qu'aînée respectée et ranger qui travaille dans les parcs nationaux et le service de la faune sur la terre d'Ariwul en Nouvelle-Galles du Sud. Elle dit que la terre n'est pas une entité à posséder, mais plutôt une partie inséparable d'elle qui doit être respectée et traitée avec soin.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
Le lien entre les peuples des Premières Nations et leur terre est incroyablement fort. Le simple fait d'être près de leur terre peut évoquer un sens d'appartenance qui transcende les mots.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast. And the feeling of belonging just overcomes me, and I think, I'm home.
Desmond Campbell est un fier homme Gurundji et Alwa Nalkan du Territoire du Nord est le PDG de Welcome to Country, une organisation qui encourage le développement de la richesse et du succès parmi les communautés aborigènes et du détroit du Torres. Il ressent des émotions similaires lorsqu'il retourne chez lui, sur sa terre.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has will never leave you.
Il ajoute que c'est un endroit où il peut être lui-même et se sentir en sécurité.
Very joyful, happiness feelings that really rises all the senses in your body. And although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Monsieur Campbell dit qu'il est important de retourner régulièrement à sa terre ancestrale, non seulement pour préserver sa culture et sa langue, mais aussi pour la profonde connexion spirituelle qu'elle encourage. Cette connexion lui donne les moyens d'être un bon leader pour son organisation.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Monsieur Campbell explique que cette connexion spirituelle avec sa terre lui vient d'histoires qu'on lui a racontées lorsqu'il était enfant, qui contenaient de l'information et des leçons à propos de sa terre.
The Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardy est un fier homme Nia Mba, Yua Larry Ai, Kuma et Camilla Roy, et un gardien moderne des pièges à poissons de Bruaruna, situé le long de la rivière Barwon. Il dit que la rivière est son sang.
About 700 meters north of the fish traps, I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those as to become one.
Monsieur Hardy continue de partager les histoires de sa terre en tant que guide pour le musée de culture aborigène de Bruaruna. Il dit que c'est sa responsabilité de garder ces histoires en vie en les faisant passer à la génération suivante.
I'm fortunate enough, I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And I often explain this on tour. I learn from old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, but it's about honouring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
Reconnue comme l'une des plus anciennes constructions humaines au monde, ces pièges à poissons sont faits de roches stratégiquement placées en forme de U et de C, non seulement pour piéger des poissons, mais aussi pour en laisser passer pour qu'ils puissent continuer leur cycle de vie. Monsieur Hardy dit que c'est un site sacré où plusieurs groupes se rassemblaient.
It's a sacred site. We're going to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no, no, we try not to have just anyone go into them traps, you know, so mainly for our people, you know, like for what's happened in the past year. We don't want people blowing them up or anything like that. So that's our main duty, is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Le parc national où travaille Auntie Deirdre compte plusieurs sites sacrés qui ont un sens sacré pour les peuples des Premières Nations. Elle indique qu'il est important d'être bien informé avant de visiter ces sites, en sachant par exemple que certains d'entre eux sont pour les hommes et d'autres les femmes.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like, for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our countries by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I could share that story. Sort of hard because you have a lot of male.
Engager la conversation avec les communautés autochtones locales à propos de ces sites et rechercher plus d'informations via le conseil foncier local est une preuve de respect et offre le privilège d'en apprendre plus sur la vraie histoire des peuples des Premières Nations.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history so they can't just read about it in different books or stuff, and but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
h 47 minutes 10 secondes sur les antennes de la radio SBS. On reste dans la culture avec la troupe Ensemble Theatre du Ciné qui nous raconte l'histoire de la vie de la chanteuse d'opéra Maria Callas dans le théâtre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Miranda Middleton. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Et vous êtes la directrice adjointe de Masterclass, c'est une pièce théâtrale à propos de la chanteuse d'opéra, la cantatrice Maria Callas, qui est présentée au Ensemble Theatre à Sydney jusqu'au 20 juillet prochain. Peut-être d'abord, parlez-nous de cette pièce qui, d'après ce que je comprends, est dirigée par Liesl Badorek.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, c'est une pièce qui raconte une partie de la vie de Maria Callas, c'est la partie de sa vie quand elle donnait des cours aux étudiants, des chanteurs, des chanteuses d'opéra. Et donc voilà, on est dans le cours avec Maria Callas et trois étudiants qui chantent pendant la pièce. Et voilà, comme vous avez dit, c'est dirigé par une femme extraordinaire, à mon avis, qui s'appelle Liesl, oui.
Et donc, l'année dernière, on a marqué le 100e anniversaire de la naissance de Maria Callas. Alors, peut-être pour nos auditeurs, un petit mot sur cette grande dame de l'opéra. Elle est née à New York, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, elle était grecque d'origine.
Oui.
Et elle a vécu une vie assez extraordinaire. Elle était connue comme chanteuse d'opéra pour être quelqu'un qui ressentait des émotions très fortes. Et pendant cette pièce, elle parle beaucoup de l'importance d'écouter la musique quand on chante. Et ouais, c'est ça. Elle adorait l'opéra et elle mettait beaucoup d'importance sur l'art, sur la beauté, le théâtre, les histoires. Et donc voilà. Mais en fait, elle est morte assez jeune. Donc sa vie était formidable, mais assez courte.
Est-ce que sa carrière vous fascine personnellement?
Oui. En fait, je ne connaissais pas très bien sa carrière avant de commencer cette pièce. Mais ce que je trouve c'est très important, c'est la façon dont elle a dû faire des sacrifices pour sa carrière. Donc, en fait, elle avait des troubles relationnels, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas beaucoup une vie au dehors du théâtre.
Et parlez-nous du casting. Alors, qui joue le rôle de Maria Callas dans Masterclass?
Oui, oui. Donc, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que, en fait, le personnage de Maria Callas, parce que c'est à la fin de sa carrière, elle n'avait pas vraiment une voix. Elle ne pouvait plus chanter très bien. Donc, en fait, quand on parle de casting, ce n'est pas une chanteuse d'opéra qui joue le rôle de Maria Callas. C'est en fait une actrice qui s'appelle Lucia Mastrantoni. Et elle peut chanter, mais elle ne chante pas pendant la pièce. Donc, c'est Lucia qui est le centre de la pièce, on dirait. Et puis, nous avons un chanteur d'opéra et deux chanteuses d'opéra avec Lucia. Et en plus, on a une pianiste et un autre musicien qui joue du cello.
D'accord. Et il y a des autres personnes qui font partie du casting sur scène?
Donc, en fait, moi, il y a six acteurs dans la pièce et c'est tout. Donc, juste six.
Oui.
Ouais.
Et combien de temps dure le spectacle?
Oui, c'est presque 2 heures, en fait.
2 heures. Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent en ce moment pour venir découvrir Masterclass, venir découvrir la vie de Maria Callas?
Oui, absolument. Personnellement, je trouve que cette pièce est assez belle. Il y a beaucoup le langage est très riche. Les acteurs sont formidables. Et je trouve que la musique dans la pièce, c'est... ça nous aide à transcendre notre expérience dans ce monde. En ce moment, ça nous transporte ailleurs. Et je trouve qu'en ce moment, ça, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, j'encourage les écouteurs de venir découvrir cette pièce.
Alors, on va profiter de l'occasion pour parler de Miranda Middleton. Alors, parlez-nous de votre parcours professionnel dans le monde du spectacle. Vous avez débuté quand, où et comment?
Oui, donc, en fait, j'ai fait le master de directing à NIDA en 2019. Et puis, il y avait quelques ans pendant COVID où il n'y avait pas beaucoup de théâtre. Donc, j'ai commencé à écrire des comédies musicales. J'ai 2 comédies musicales qui se développent en ce moment. Mais ça fait 4 ans maintenant que je suis rédactrice de spectacles. J'adore le théâtre avec de la musique et aussi de la danse. J'étais danseuse quand j'étais jeune. Et j'apprécie beaucoup le texte. Donc, voilà, c'est moi, mais cette année, je suis, ça s'appelle Sandra Bates Director's Awards Recipient at Ensemble Theatre. Oui. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis en répétition et j'assiste Liesl avec Masterclass.
Parlons un petit peu de vos autres projets pour après Masterclass.
Oui, après Masterclass, je vais aussi être rédactrice adjointe sur le comédie musicale Little Women à Hayes Theatre, aussi à Sydney. Et puis après ça, je vais retourner à Ensemble Theatre pour une nouvelle pièce australienne qui s'appelle The Queen's Nanny. Et ça, c'est avec Priscilla Jackman, qui est une autre femme extraordinaire, à mon avis. Et puis, finalement, cette année, je vais diriger une saison de ma propre comédie musicale qui s'appelle Paper Stars. Et ça raconte la vie de l'écrivain de Mary Poppins, qui était en fait australienne, P.L. Travers.
Et on espère vous avoir à nouveau sur les ondes de Radio SBS en français pour nous expliquer un petit peu tous ces spectacles que vous avez en tête. Et je suis curieux de vous demander cette question. Où est-ce que vous avez appris le français en Australie?
Oui, c'est ça. Je l'ai appris quand j'étais au lycée. J'ai fait un échange à Lyon quand j'avais 16 ans. Et en fait, je suis restée en contact avec la famille d'accueil.
Oui.
Donc, et puis l'année dernière, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques. Pendant 5 semaines, je me promenais à la campagne française. Donc, j'essayais de pratiquer la langue.
Formidable. Et je rappelle qu'on est avec Miranda Middleton, qui est la directrice adjointe de Masterclass. Et donc, Masterclass, c'est jusqu'au 20 juillet prochain. C'est au Ensemble Theatre à Kirribilli, à Sydney, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Miranda Middleton, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS en français. Bon courage et bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et à la prochaine fois. Merci.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Sentier de Crimée, caravane d'apatride, petit pôle caravelle.
C'était Paris Metek, qui nous est interprété par Gaël Faye. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 11 juin. En France, réaction mitigée chez les militants des tous bords après l'annonce des dissolutions de l'Assemblée par le président de la République. Anthony Albanese rejette la controverse concernant des titres honorifiques récompensant des dirigeants australiens du temps de la pandémie. Et le Conseil de sécurité de l'ONU soutient une proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par le président américain Joe Biden. Et voilà, nous touchons à la fin de cette édition du programme en français sur la radio SBS de ce mardi 11 juin. Bertrand Tunganamé, merci de votre compagnie ce mardi après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.